Bien donc bonjour. Alors je vais me présenter. Je suis donc je m'appelle Jacqueline Broll. Je suis inspecteur conseiller pour l'action culturelle et je travaille à la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes. Donc les DRAC, vous savez, sont des services déconcentrés du ministère de la Culture en région. Il y en a 24, je crois, en France. Je sais que vous venez d'un peu partout en France, donc vous avez tous sans doute un interlocuteur ou des interlocuteurs en DRAC, j'imagine. La demande qui m'avait été faite, c'était d'essayer de donner à voir comment travaille le ministère de la Culture sur la question de l'histoire des arts. Donc, je n'ai pas vocation à savoir tout ce qui se passe en France, j'ai essayé de vous donner une vision synthétique de ce que pratique la DRAC Rhône-Alpes. Alors, il faut savoir que Rhône-Alpes est une très grosse région, c'est 8 départements, c'est 2 académies, c'est en fait la première DRAC en région. Puisqu'il y a Île-de-France et puis après la DRAC Rhône-Alpes. Donc il y a Île-de-France et puis la DRAC Rhône-Alpes. La Rhône-Alpes, nous sommes 3 conseillers pour l'éducation artistique et culturelle et je crois bien qu'à part en Île-de-France, c'est la seule DRAC qui est un nombre aussi important de conseillers. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas vous parler plus du ministère de la Culture, mais vous savez que le ministère de la Culture a été réorganisé, qu'il y a une direction de la création, une direction des patrimoines, une direction des industries culturelles et puis un secrétariat général. Tout ce qui concerne l'action culturelle dépend du secrétariat général. Et donc, en DRAC, on s'est réorganisé avec des pôles. Et donc, le pôle dans lequel je travaille s'appelle Public et Territoire. Il regroupe donc l'éducation artistique et culturelle et toute l'action culturelle avec tous les publics, c'est-à-dire culture à l'hôpital, culture et prison, culture et handicap, et tout le travail sur la politique de la ville. Et je crois que je n'oublie rien. Donc, nous sommes dans ce pôle public et territoire, nous sommes 5 conseillers. Voilà. Donc, ça vous donne idée du nombre de personnes qui travaillent sur une région comme celle-ci. Alors, je vous précise ça parce que, par ailleurs, je suis vice-présidente de l'Association des conseillers pour l'éducation artistique en France. Et je sais très bien que j'ai des collègues qui sont tout seuls dans leur DRAC. Et donc, je sais aussi que j'ai des collègues qui sont seuls et qui portent toutes les politiques, à la fois les politiques d'éducation artistique et les politiques de tous les publics. Voilà. L'histoire des arts, c'est quelque chose qui est apparu dans le paysage en 2008. Et sur lequel le ministère de la Culture a été mobilisé au travers d'une circulaire. On en reparlera un peu plus loin. Avant de parler d'histoire des arts, je voulais vous expliquer comment le service d'éducation artistique travaille pour après replacer l'histoire des arts dans ses formes de travail. Donc voilà, nous sommes... un service, donc je vous ai tout expliqué sur combien nous étions, etc. Et nous travaillons avec nos collègues qui sont conseillers dans les différents domaines, donc qui peuvent être conseillers livre et lecture, musique, danse, art plastique, etc. L'idée, c'est que le pôle public et territoire est un service transversal qui a travaillé avec tous les secteurs. Nous travaillons en partenariat avec les collectivités territoriales, avec tous les niveaux de collectivité territoriale. Et nous travaillons avec, donc, pour le coup, sur cette région, avec 2 académies, celle de Grenoble et de Lyon. Donc, Je vous ai mis ce que recouvre, enfin ce que ça veut dire deux académies pour nous, c'est 8 départements, 8 inspections académiques. Enfin, vous voyez, on a une multiplicité d'interlocuteurs. D'où la nécessité d'essayer de clarifier l'action de la DRAC afin d'avoir une sorte de méthodologie commune sur la région. Alors, c'est pas très facile, mais c'est ce vers quoi nous tendons. Alors, les acteurs, je crois, ils sont tous. Hein, vous voyez, les DAC, les CRDP, les inspecteurs pédagogiques régionaux, avec qui nous commençons à travailler, alors que jusqu'à présent, on les voyait, mais pas complètement, pas totalement dans le champ. Donc là, nous arrivons à travailler avec tous les acteurs. Évidemment, les structures et acteurs culturels, bien sûr. Alors, tous ces gens sont en interaction. C'est-à-dire que les structures, il faut savoir que la culture en France est financée majoritairement par les collectivités territoriales. Le ministère de la Culture apporte des financements importants, mais sur un certain nombre d'établissements qui sont des établissements publics et qui ne sont pas forcément en région. En région, on en a très peu. Enfin, en tout cas, en Rhône-Alpes, on a très peu d'établissements publics. Donc, nous travaillons avec des structures et des acteurs culturels qui, en fait, sont cofinancés par l'État, la région, les départements, les villes, les communes, les communautés d'agglomération, etc. C'est très important de savoir ça parce que les collectivités territoriales, elles sont aussi des financeurs de l'éducation. Donc, elles sont les communes pour les écoles, les conseils généraux pour les collèges et les régions pour les lycées. Donc, nous travaillons évidemment avec les trois niveaux de l'école et nous travaillons également avec l'université. Je n'ai pas parlé de l'université aujourd'hui puisque ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment cette question d'histoire des arts et pour l'instant, elle est école, collège, lycée. Et tout cela autour de projets. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte de faire fonctionner le premier partenariat, c'est-à-dire le partenariat de base, à savoir un enseignant, un acteur culturel, qui peut être un artiste, mais qui peut être aussi une structure culturelle de médiation du patrimoine ou tout autre. Et nous essayons de faire en sorte que ça produise un vrai projet auprès des élèves. On reste à un niveau très pragmatique. L'idée étant que pour que ces projets-là puissent se construire et se développer, il faut qu'au niveau de... Alors, je sais pas si j'ai une... Ah, si, j'en ai une. Il faut qu'au niveau de ces trois entités, c'est-à-dire le ministère de la Culture, les collectivités et le ministère de l'Éducation nationale, nous soyons en capacité de travailler ensemble à un niveau médian, c'est-à-dire des inspections académiques, des rectorats avec la direction régionale et soit les départements ou la région, de façon à construire des modalités de travail qui permettent à ces acteurs-là, et ceux-là en particulier, de construire du projet sans avoir à aller courir tout seul, chercher un financement d'un côté, un financement de l'autre, et à monter toute la partie, financière de leur projet sans avoir pour autant de voir un peu déblayer. Donc l'idée est bien d'avoir un partenariat institutionnel qui permette la naissance de projets auprès des acteurs de terrain. Alors, je reprends là les trois entités qui sont censées travailler ensemble et qui travaillent ensemble. Hein. En Rhône-Alpes, je le dis une fois, en Rhône-Alpes, les choses fonctionnent plutôt bien et on essaie maintenant d'arriver à des modalités partagées entre les deux rectorats. Donc là, j'ai pris comme exemple le réseau des acteurs culturels. Vous voyez, ce réseau-là, c'est patrimoine architecture. Donc, nous sommes là, nous essayons d'avoir des dispositifs territoriaux. Alors, ces dispositifs territoriaux, ils sont relativement peu nombreux finalement. Ce sur quoi nous travaillons énormément, ce sont les conventions avec les conseils généraux. Sur 8 départements, nous avons 5 conventions. Ce qui veut dire que quand une question nouvelle se pose, en termes d'éducation artistique et culturelle, elle peut se poser dans le cadre de la convention, ce qui permet d'avoir tous les acteurs autour de la question. Nous avons, donc c'est là il manque ici quelque chose qui est la convention avec la région. Et nous sommes juste aux prémices. Nous commençons le travail avec cette. Vous m'entendez plus là? Si, c'est bon. Alors la convention avec la région se commence simplement. Alors vous connaissez les plans locaux d'éducation artistique. C'est un conventionnement entre une commune, mais nous essayons de travailler avec des communautés d'agglomération ou des communautés de communes, une inspection académique, et puis côté DRAC, l'État, c'est-à-dire le préfet. Voilà. Donc nous essayons de monter ces plans sur des territoires restreints, qui sont quand même des territoires définis par des. Là, le dernier qu'on est en train de monter est un plan local sur une communauté d'agglomération sur 21 communes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous viennent du Nord. Voilà. Dans le Nord, c'est quelque chose qui est extrêmement développé et qui est sur des territoires très vastes. Donc, je sais que les choses se font de manière extrêmement. Poussé dans le Nord sur ces, ils appellent ça des CLEA, des contrats locaux d'éducation artistique. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est un modèle, enfin, c'est vraiment un modèle du genre. Donc, je vous invite à voir ce qui se passe là-bas. Donc, les jumelages, ça, sont des dispositifs plus anciens, les jumelages, c'est-à-dire une structure culturelle et un nuage d'établissements. C'est-à-dire que ça peut être un certain nombre de collèges et les écoles qui vont avec, collèges, lycées, écoles. Donc, c'est structure, établissement. Là, l'État n'est pas signataire, mais l'État culture veille à ce que ça puisse vivre. Alors, les résidences. Donc, les résidences, il y a une circulaire assez récente, je crois, de 2009, je crois, sur les résidences d'artistes en milieu scolaire. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de développer. C'est encore balbutiant. On développe actuellement les résidences écriture de lumière, mais nous cherchons écriture de lumière, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ce sont des résidences de photographes qui sont portées à la fois par le ministère de la Culture et puis le CEREN. L'idée des résidences, c'est quand même d'avoir un artiste ou une équipe artistique en capacité de travailler avec tous les publics sur un territoire. Mais bien évidemment, c'est tous les publics, mais pas tous en même temps. Et on fait des choix de façon à ce que l'artiste ait aussi un espace pour travailler sur sa création, si dans sa résidence, il a l'idée de travailler en création. Ensuite, les chartes. Alors, les chartes, c'est un dispositif ancien. Je ne suis pas certaine qu'il soit encore très efficace. Et les PREAC, donc les pôles ressources d'éducation artistique et culturelle. Alors eux, ils ont eu des vies très diverses en France. Certains fonctionnent très très bien, reçoivent. Enfin, vous savez que est-ce que vous connaissez les PREAC? Les PREAC ont vocation à faire de la formation de formateurs. Et certains ont une véritable vivacité, d'autres un peu moins. Bon, voilà. Et tout ça pour, du côté des enseignants et des élèves, travailler à la fois sur la sensibilisation, les dispositifs partenariaux. Alors, qu'appelle-t-on dispositifs partenariaux? Tout ce qui est défini par un texte, à savoir les ateliers et les options. Et puis les projets fédérateurs, ce sont tous les projets singuliers qu'on peut construire avec une structure qui ne rentre pas forcément dans le cadre d'un atelier ou d'une option. Je crois que vraiment de manière massive, nous avons affaire à des projets singuliers. Et puis évidemment les actions de formation et puis le soutien à la création de ressources. Voilà ce sur quoi nous essayons de travailler. Alors, maintenant que je vous ai dressé l'espace dans lequel nous fonctionnons, je vais essayer de vous parler de manière un peu plus précise de ce que nous faisons. Alors là, de ce que nous faisons sur l'histoire des arts. Alors, l'éducation artistique d'abord. L'éducation artistique, comme on l'a vu précédemment, c'est vraiment une compétence partagée, culture, éducation et collectivité territoriale. Donc, je vous ai remis ce qu'en dit Marie-Christine Bordeaux. Hein, si vous avez quelqu'un à lire sur cette question, je vous invite à lire ce qu'écrit Marie-Christine Bordeaux. Elle est chercheure, elle travaille à l'Université de Grenoble et puis elle travaille pour l'Observatoire national des politiques culturelles à Grenoble aussi. Il y a donc dans l'éducation artistique la sensibilisation, l'idée d'avoir une démocratisation et cette approche d'initiation, mais qui n'est pas une volonté de spécialisation. Voilà. Et ce qui est extrêmement important en éducation artistique et culturelle, c'est la notion de partenariat. Donc, tout est construit, enfin, le ministère de la Culture est présent dans l'éducation artistique au travers de cette question de partenariat. Et les modèles d'action, et ça c'est aussi Marie-Christine Bordeaux qui redonne ces modèles d'action, mais moi je vous invite vraiment à les penser parce qu'ils sont très efficaces pour essayer de réfléchir à une action. Lorsqu'on a une action, mais très concrètement, lorsqu'on a un projet, c'est intéressant de s'interroger à partir de ces modèles d'action. Qu'est-ce qu'on fait en termes de fréquentation des œuvres? Qu'est-ce qu'on fait en termes de pratique personnelle? Et qu'est-ce qu'on fait en termes d'interprétation, d'explicitation? Alors, lorsqu'on utilise ce triptyque pour réfléchir, on voit bien qu'il y a une place pour l'histoire des arts. Et que l'histoire des arts, elle pourrait très très bien se trouver ici, dans tout ce qui est travail d'explicitation. Mais ici, elle n'est absolument pas isolée, elle doit fonctionner avec le reste, avec le voir et le faire. Et dès lors qu'on la replace dans ce contexte d'éducation artistique, on comprend mieux comment fonctionne le texte du BO, le fameux BO d'août 2008. Alors, on va y venir. Donc, le BO d'août 2008. Alors, je vous ai remis des morceaux de texte. Vous n'êtes pas obligé de les lire, hein, mais je trouve que c'était important j'ai essayé, dans la mesure où vous êtes des pédagogues, donc vous connaissez par cœur le BO concernant les thématiques, la liste des référents, la liste des références. Vous savez quels sont les savoirs, les savoir-faire, etc. Moi, j'ai essayé de vous donner la lecture que l'on doit faire, nous, côté ministère de la Culture, de ce BO, parce que nous sommes dans ce BO aussi. Donc, il est absolument nécessaire qu'on vous explique comment nous le lisons et comment nous travaillons à partir du BO. Donc, d'abord, l'enseignement de l'histoire des arts, on l'a vu apparaître dans la circulaire d'avril 2008. Déjà, c'est la première chose. Et déjà, dans la circulaire d'avril, on dit que l'histoire des arts doit être dans le volet artistique et culturel du projet d'école ou du projet d'établissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon premier schéma, et le volet artistique et culturel est mentionné, parce que c'est un outil, c'est vraiment l'outil des écoles et des établissements pour penser leur approche de l'éducation artistique et culturelle pour leurs élèves. Un élève arrive à l'école, il va y rester 5 ans, Que va-t-il faire pendant 5 ans? Que va-t-il rencontrer pendant ces 5 années à l'école primaire, par exemple? Ensuite, on a vu arriver l'histoire des arts définie dans un BO. Alors, je sais qu'il y a des IAIPR dans la salle. Alors, c'est un BO d'organisation. Ça n'est pas un programme, mais je n'irai pas plus loin sur cette question parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour parler du BO en termes de contenu pédagogique. Le fait, ce qui est important encore, c'est cette intégration dans le volet artistique et culturel des projets d'école et des établissements. Et pour la DRAC, c'est ça qui est important, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler. Et, bon, évidemment, le texte indique en toutes lettres que les DRAC sont les interlocuteurs, puisque nous sommes censés travailler avec tous les acteurs du territoire. Et voilà ce sur quoi nous sommes mobilisés. Bon, apporter une expertise, mobiliser les réseaux. Et les réseaux, nous devons les mobiliser pour deux raisons. Parce que c'est leur mission de service public. Et ces missions de service public, elles sont, comme vous le voyez, elles sont inscrites dans le cahier des charges des structures culturelles qui perçoivent des subventions de l'État. Et elles sont... Alors, les structures culturelles qui perçoivent des subventions de l'État, il y en a un certain nombre. Et les établissements publics, alors eux, ce sont des établissements qui dépendent du ministère de la Culture, eux, ils ont carrément des contrats de performance qu'ils signent avec le ministère de la Culture. Tout comme un établissement, un EPLE, signe un contrat d'objectif avec son rectorat, un établissement public culturel signe un contrat de performance avec le ministère. Et dans le contrat de performance, on leur demande de travailler sur l'éducation artistique et culturelle. Et donc, on travaille sur l'éducation artistique et culturelle, donc l'histoire des arts entre dans cette question. Elle ne vient pas toute seule, elle vient avec les trois entrées, faire, voir, expliciter. Alors, la mission conjointe de la DRAC, enfin bon, donc du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, c'est trois entrées. C'est la mobilisation des acteurs, la mise à disposition des ressources et la formation de l'ensemble des acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Alors après, une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré précédemment, le ministère de la Culture peut apporter une aide, un support, une ressource, mais il ne peut le faire, enfin, il ne doit le faire seul. Donc, là, c'est vraiment dans un partenariat que les choses se construisent. Alors, la première question qui nous a été posée, en DRAC, nous est venue du ministère, et cette question est arrivée par ce que vous avez dû rencontrer dans votre parcours, l'annuaire Histoire des Arts, qui a été construit par le ministère de la Culture. Donc, cet annuaire Histoire des Arts s'est construit à partir des ressources culturelles qui existaient dans les établissements publics qui dépendent du ministère. Alors, qui sont les établissements publics qui dépendent du ministère ? C'est Orsay, c'est le Louvre, c'est Versailles, c'est le Quai Branly, etc., etc. Donc là, il y avait déjà des ressources numériques construites et ça a été la base de construction de l'annuaire. Ensuite, quand cette première version est arrivée, l'annuaire ne reflétait que les ressources des établissements publics qui sont des ressources pour la plupart plutôt parisiennes. Donc la question s'est posée de savoir comment travailler en région. Donc nous avons été interrogés à ce niveau-là et donc nous avons commencé un travail de recensement des ressources qui existent en région. Donc on les a recensés, on les a indiqués au ministère, de façon à ce que petit à petit ces ressources entrent dans l'annuaire Histoire des Arts. Mais ce qu'on a surtout recensé, c'est qu'on avait beaucoup de ressources sous format papier, mais fort peu sous format numérique. Voilà. Donc, à partir de là, la question suivante, la phase 3 de l'annuaire Histoire des Arts, c'est comment est-ce qu'on construit des ressources en région pour que les enseignants qui sont dans cette région trouvent rapidement, d'une part, des notions concernant les différents arts et d'autre part, des références, c'est-à-dire des lieux qui peuvent être intéressants et qui peuvent nourrir leur enseignement. Donc, c'est ainsi que nous nous sommes questionnés, et nous nous sommes questionnés sur ce que pouvaient être donc les bonnes ressources. Et les bonnes ressources, c'est quand même quelque chose d'un peu complexe. Mais dans l'idée de ressources, il y a cette idée de capsule de savoir. J'aime bien cette proposition. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit pouvoir nous permettre de réfléchir l'objet, qui nous donne de l'information sur l'objet sans que forcément on l'ait déjà rencontré, et qui puisse être utilisé à la fois par quelqu'un qui est dans la région, mais aussi par quelqu'un qui est hors de la région. Donc, que fait-on, nous, en DRAC ? Je reviens sur les trois entrées. On mobilise les réseaux. Alors, comme nous sommes une très grosse région, on ne peut absolument pas mettre ensemble le réseau architecture et patrimoine, le réseau spectacle vivant et le réseau livre et lecture, parce que je crois qu'on ne trouverait pas de salle assez grande pour le faire. Donc, nous travaillons par domaine. Donc, nous avons déjà travaillé sur le réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Nous travaillons sur le réseau architecture et patrimoine. Nous travaillons sur livre et lecture, de façon à ce que petit à petit, les acteurs, donc les professionnels de ce réseau, puissent commencer, eux, à imaginer comment ils vont construire les ressources numériques. C'est un travail très long, hein, et c'est un très gros travail. Et c'est quelque chose que nous faisons petit à petit. Il faut savoir que par ailleurs, le ministère de la Culture développe une politique de numérisation extrêmement volontariste, de façon à ce que les structures numérisent leurs fonds, numérisent leurs documents, pour petit à petit avoir ces bases de données. Hein, voilà. Donc, nous mobilisons les structures pour qu'elles réfléchissent à comment elles vont pouvoir construire une ressource. Nous les accompagnons. Alors, le premier projet qu'on va pouvoir voir apparaître et qui a vraiment été construit de cette manière-là, c'est Numéridance, qui va sortir lundi prochain. Donc, c'est la Maison de la Danse qui propose une ressource en ligne qui, elle, est extrêmement sophistiquée, vous verrez. Alors, je ne peux pas vous la présenter parce qu'ils l'ont présentée à Paris, je crois, le 24, et donc ils la présentent le 31 à Lyon. Donc, Numéridance. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon travaille actuellement sur sa collection 20e, et donc la collection 20e va être proposée, enfin, un certain nombre, je crois qu'il y a une vingtaine d'œuvres de la collection 20e qui vont être proposées, et là, le travail a été construit avec l'équipe des médiateurs du musée et des professeurs qui ont été mandatés par la DAAC de Lyon, donc la délégation académique de Lyon, pour travailler sur cette ressource-là. Alors, ce n'est pas toujours possible, hein. On n'a pas tout le temps des professeurs qui peuvent être présents pour travailler là-dessus, parce que ça nécessite évidemment des heures pour travailler. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, je vous ai mis les différents types de ressources qu'on peut trouver. On va aller les regarder très rapidement. Donc, celle-ci, c'est une ressource qui est un peu ancienne, hein, qui correspond à un travail qui a été fait sur la région Rhône-Alpes, sur l'architecture 20e. Donc vous voyez, si je clique là, je vais tomber sur des images et puis une notice avec un historique, une description et des observations. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la forme de base. Des images, des informations scientifiquement avérées. On est sûr qu'on parle bien de la bonne chose et que les informations qui vous sont données sont les bonnes. Mais c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, mais vous le connaissez sans doute, c'est celui-ci. L'histoire par l'image. Hein? Donc là, il y a des possibilités d'action sur l'image. Et puis, évidemment, il y a une notice. Puis le site, enfin quand on va sur le site, je vous invite, on ne va pas le faire maintenant, mais le site est extrêmement riche et foisonnant. Voilà. Le 3, toujours dans ce niveau-là, on a les œuvres à la loupe du Louvre. Alors je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est rigolo. Et puis que souvent on ne regarde pas, c'est pas forcément le cabinet d'ébène, voilà. Donc, on va laisser le cabinet d'ébène tranquille dans son coin. Moi, je voulais aussi vous montrer cela. Donc, vous les connaissez sans doute, hein, les sites de la BNF, qui sont fascinants. on peut utiliser des mots. Alors, les sites de la BNF sont des sites absolument remarquables. Il se trouve que je crois quand même qu'en France, les référents sur ce type de construction sont vraiment du côté du livre et de la lecture et vraiment du côté des médiathèques. Il y a des savoir-faire extraordinaires. Alors, je vous ai mis la BNF, je voulais pas en mettre trop, mais en région, nous avons la RALD, hein, qui est un site, qui est une agence régionale qui est partagée entre la région Rhône-Alpes et la DRAC Rhône-Alpes, qui travaille sur le livre et la lecture et qui aussi en son sein a des ressources extraordinaires de construction d'expositions virtuelles. Alors, c'est souvent de ce côté-là qu'on trouve des experts. Hein. Alors, je travaille dans le groupe de travail national sur les ressources et justement, l'idée est d'arriver à ce que ces experts qui sont dans les établissements publics, donc le Louvre, mais surtout donc la BNF, d'autres experts sont à la Cité de la Villette, puissent venir en région travailler avec les structures culturelles pour justement leur apporter leur savoir. Leur savoir et leur savoir-faire, de façon à ce que tout ce que ces structures-là ont pu accumuler de connaissances sur ce qu'était ce type de médiation soit donné assez rapidement à d'autres structures qui ont beaucoup moins de possibilités. Et les établissements publics, donc qui dépendent du ministère, sont mobilisés sur ces questions. Alors, je voulais vous en montrer encore un. C'est celui-ci. Vous voyez. Voilà, je vous montre Chauvet, parce que Chauvet, c'est quand même ici. Et Chauvet, c'est bon, les premières traces qu'on connaisse, c'est moins 35 000 Chauvet. Donc vous voyez, il y a aussi des possibilités donc d'avoir un accès à des sites qui sont très aboutis. Donc pour nos structures culturelles, c'est important qu'elles aient dans la tête, ben voilà, soit on est en capacité de faire le premier type, c'est-à-dire une image et puis une notice exacte, juste, avérée, soit des sites un peu plus poussés. L'idée étant de faire en sorte que les structures culturelles qui ont le savoir que j'appelle souvent le savoir gris, c'est-à-dire qu'il est sous format papier. Parfois, on le trouve, parfois on le trouve plus, parce que ça a été une plaquette qui a été éditée, et puis il y a une autre plaquette qui l'a remplacée, etc., etc. Mais ce savoir existe. On a aussi des entreprises qui travaillent sur les nouvelles images, notamment en Rhône-Alpes, mais je sais que dans d'autres régions, il y a ce type d'entreprise. On a une région... Et on a une direction du ministère de la Culture et on a aussi l'Éducation nationale. L'idée, c'est que tous ces gens se mettent autour d'une table et réfléchissent à ce qu'il serait souhaitable de faire pour petit à petit que les choses se mettent en route et que les partenariats se construisent pour construire cette ressource. Vous voyez, c'est quand même un travail un peu de longue haleine. Ça ne se fera pas du jour au lendemain et ça demande beaucoup de... Il faut petit à petit lier les choses. Voilà. Tout ça, je vous parlais en fait de ce site-là qui maintenant a beaucoup évolué. Hein. C'était au départ un site qui était dans culture.fr et qui maintenant a un site dédié et qui vous propose des focus, des nouveautés. Et lorsqu'on parle avec les gens qui animent ce site, ils nous disent que c'est cette rubrique qui est la plus consultée. Ce sont les repères chronologiques. Je vous le dis parce que c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Ça veut dire aussi qu'il y a vraiment un besoin de synthèse des choses, parce que les enseignants, ils ne peuvent pas passer toute leur soirée à refaire tout ce que d'autres ont déjà construit. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des choses. J'ai oublié de vous dire à propos des ressources que très souvent en région, il y a de véritables références hein, qu'on peut trouver pour que les enseignants travaillent avec des ressources de proximité. Le problème, c'est que souvent, c'est par exemple les villes et les pays d'arrêt d'histoire, souvent n'ont pas de site. Ils sont hébergés sur le site de la commune ou de la communauté de communes et il faut 12 clics pour les trouver. Et quand on les a trouvés, on les a déjà perdus parce que, en fait, ça va pas. Donc, on réfléchit à comment faire en sorte que cette information remonte. Elle remonte et qu'elle soit accessible. Enfin, l'idée est quand même d'arriver à avoir une information qui mette en lien différents domaines à propos d'une époque, à propos d'une thématique, à propos... Vous voyez, le projet est vaste, mais il est très ambitieux, mais je le trouve réjouissant, parce que c'est un projet qui met tout le monde autour de la table. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel.